session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 2 juillet 1991.
J'espère que vous êtes bien reposé. Il n'y a pas eu d'orage, alors ça va bien. Et que vous entrez dans le second jour. Voyez bien les trois voies d'accès au mystère. Appelle Dieu et que notre foi chrétienne considère comme notre Père. Il faut toujours avoir présent à nous cette foi par les traditions religieuses. Un philosophe digne de ce nom qui s'occupe de l'homme n'a pas le droit mépriser les traditions religieuses a priori, c'est-à-dire affectivement, il doit les regarder. C'est un fond du patrimoine humain, c'est un grand patrimoine humain. Un philosophe doit respecter ce que représente la lumière de la foi, qui est au-delà des traditions religieuses, et qui nous permet d'être directement éduqués, enseignés par le Créateur, notre Dieu, notre Père. Et en définitive, par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et ceci doit nous éveiller à voir si notre intelligence humaine n'est pas capable de découvrir celui qui est notre Créateur. Le philosophe, l'homme philosophe, doit tout le temps se demander ce qu'il y a d'authentique dans cette tradition religieuse, dans ce patrimoine humain. Il respecte la foi, puisque c'est un don. Tout croyant dit que c'est un don, que c'est gratuit, c'est au-delà de l'intelligence. Le philosophe respecte, comme un philosophe respecte un génie artistique, il respecte un génie, un poète, il respecte un peintre, il respecte un sculpteur. Il ne saura pas faire la même chose. Mais il respecte. En disant, quelquefois, il y a des choses qu'il peut très bien ne pas comprendre. Il ne comprend pas tout. Le philosophe n'a pas besoin de tout comprendre. Il respecte ce qui est humain et ce qui semble être l'humain dans toute sa taille. Ou le surhumain, le héros. Dans toutes les civilisations, il y a des héros. Un peu surhumains. Que les philosophes ont respecté. Et que le philosophe doit chercher, par son expérience, la découverte de l'être premier. Pour comprendre ce qu'est l'attitude lire ce que Hegel nous dit sur la religion. Ce que Heidegger nous dit sur cette découverte de Dieu. Je prends les deux. On pourrait en prendre beaucoup d'autres. On pourrait prendre tous ceux qui rejettent cela. La religion opium du peuple. On connaît ça. Hein. Ce que on peut nous dire dans la perspective freudienne. Ce qu'on peut nous dire dans la perspective du positivisme, dans la perspective des sept idéologies athées, c'est important, mais c'est négatif. Alors, c'est fait pour nous éveiller, ça nous pique. L'intelligence et le cœur pour répondre à tout ça. Tandis que Hegel et Heidegger respecte ce qu'il considère comme très grand. Alors, je vous lis dans la philosophie de la religion, notion de la philosophie de la religion. Donc, c'est l'introduction. J'ai jugé nécessaire de consacrer à l'étude de la religion une partie spéciale de la philosophie, donc intégrée dans la philosophie. L'objet de ces leçons est la philosophie de la religion, et l'objet de la religion est lui-même le plus sublime, l'absolu. Il fait aussi l'objet de la philosophie de la religion, dont le contenu est le contenu absolu. Je me propose, au point de départ, de déterminer l'objet et la fin de la philosophie de la religion. Cet objet est ce qui est vraiment, ce qui est vrai simplement, ce qui est la vérité même. La région où se trouvent résolus tous les énigmes du monde, toutes les contradictions de la pensée pensant plus profondément, toutes les souffrances du sentiment, la région de l'éternelle vérité, du repos éternel, l'absolue vérité même, l'apaisement absolu. Mais voilà ce que regarde la religion. C'est intéressant, hein, de voir quelqu'un comme Hegel reconnaître cela. Ce qui montre bien que les post-hegéliens n'ont pas la taille de Hegel. C'est toujours intéressant, ça. Ce qui fait de l'homme l'un homme, ce qui le distingue de l'animal, c'est la conscience, la pensée en général. Plus précisément, c'est qu'il est esprit. L'homme est conscience éternelle. Parce qu'il pense qu'il est esprit. De ce point de l'esprit se développent de multiples formations. Toutes les sciences, tous les arts divers, toute la complexité infinie des conditions humaines qui en découlent. Les intérêts de la vie politique, coutumes et mœurs, activités techniques, jouissances, tout ce qui chez nous a de la valeur et de la considération, tout ce qui nous donne de l'honneur et de la satisfaction, tout ce qui constitue la destination, les vertus et le bonheur de l'homme, où son art et sa science trouvent leur fierté et leur gloire, conditions qui se rapportent à sa liberté, à sa volonté, tout cela a son ultime centre dans la religion. L'unique pensée, la conscience, les sentiments de Dieu. Donc, toutes les valeurs de l'homme ont comme sommet la religion. est le point d'où tout part et où tout a sa fin. Tout en lui, tout a en lui son origine et tout revient vers lui. Ce sont les sentiments de Dieu. La religion, l'objet de la religion, c'est les sentiments de Dieu. Idem sanctité, santé comme Dieu. Il est ce qui anime toutes ces formations dans leur existence. Le centre conservateur qui vivifie, anime, spiritualise tout. Cet objet n'est que par et pour soi. Il n'a aucun rapport à un autre absolu. Il est ce qui se suffit absolument et inconditionné, indépendant, libre d'une manière absolue, ainsi que sa suprême fin ultime pour soi. À cette fin ultime reviennent toutes les autres fins. Devant elles, elles disparaissent, quoique valables jusque-là. Vis-à-vis d'elles, nul autre intérêt ne se soutient, et tous trouvent en elles leur importance et leur résolution. Elle est sa propre satisfaction et n'a besoin de rien d'autre. Ce qui s'occupe d'elle, la religion, ne peut avoir d'autre fin dernière que d'elle-même. La religion est l'occupation la plus libre et en elle, l'esprit est libéré. Oui, la vérité vous libérera. Elle est vérité, elle est la vérité, donc elle vous libère. Elle est la libération, ce qui est libre absolument. Bien plus, la liberté même, et pour cette raison, fin pour elle, fin pour soi. Elle est la conscience absolument libre, la conscience de la vérité absolue. C'est pourquoi elle donne la satisfaction. C'est en elle que l'esprit se décharge de toute vie, de toute finité, et qu'il est en tout assuré et éprouvé. C'est l'occupation avec les choses éternelles. C'est pourquoi nous devons et pouvons envisager une vie avec et dans l'éternel. En tant que nous ressentons cette vie, que nous en avons en même temps le sentiment, ce sentiment résout tout ce qui est défectueux en nous, tout ce qui est défectueux et tout ce qui est fini. C'est la félicité et l'on ne peut comprendre rien d'autre sous ce terme. Si donc on définit la religion comme un sentiment, elle est la jouissance absolue que nous appelons félicité. En tant qu'activité, elle a pour tâche de manifester la gloire de Dieu, de révéler sa magnificence, et elle ne fait rien d'autre. Dieu étant ainsi le principe et le point final de toute et chaque action, de toute et chaque activité, de toute et chaque vouloir, tous les hommes et tous les peuples ont une certaine conscience de Dieu, de la substance absolue, comme la vérité, qui est la vérité d'eux comme de tout leur être, de toute leur action. D'une manière générale, les peuples ont donc, comme les individus, depuis toujours, considéré cette occupation, la conscience religieuse, ce savoir et ce sentiment de Dieu, comme leur vie supérieure, leur véritable fin, leur vraie dignité, comme le dimanche de leur vie où s'évanouissent les soucis des fins terrestres, les occupations de ce monde, et où dans le sentiment actuel du recueillement, ou dans l'espoir de ce recueillement, l'esprit s'apaise en Dieu. point de départ de tous les athées contemporains. Et ça, c'est la très grosse point d'interrogation. Étienne Born le dit. Tous les athées contemporains sont post-hégéliens. Il n'y en a qu'un qui n'est pas post-hégélien. Celui d'Auguste Comte. Autres après et dans la dialectique hegelienne. C'est très curieux de voir comment Hegel couve les idéologies athées alors que lui profondément veut au contraire par sa dialectique glorifier Dieu. Par toute sa philosophie il veut glorifier Dieu. À tel point, je vous dis ça c'est parce que c'est intéressant. À tel point que quelqu'un comme Karl Barth, qui est le grand théologien protestant de notre temps, quoi. Il est mort, mais il n'y a pas si longtemps. Karl Barth dit expressément que Hegel est le plus grand théologien luthérien. Les théologiens luthériens, le premier c'est Hegel. Et dit personne n'a parlé de la très sainte Trinité comme lui, sauf peut-être Thomas d'Aquin. Faut jamais oublier ça. Quand vous êtes en face des théologiens d'aujourd'hui qui méprisent Thomas d'Aquin, rappelez-vous cette parole de Karl Barth. Comme c'est un protestant, ils s'inclineront. Karl Barth dit ça. C'est très beau comme hommage, parce que c'est un grand esprit, Karl Barth. On peut très bien ne pas être d'accord avec lui, mais c'est un grand esprit. Quand on rencontre des protestants et des protestantes barthiennes, j'en ai rencontré en Suisse, on voit toujours une grande dignité de pensée, de réflexion, de contemplation. C'est pas, vous voyez, c'est pas un petit protestantisme, c'est au contraire un grand effort d'exaltation de la suprématie de Dieu. C'est ça que fait Barth. Je continue. L'esprit s'apaise en Dieu. C'est très beau du reste. Et tant qu'on n'a pas découvert Dieu, on est un errant au point de vue de l'esprit. Et notre esprit ne peut amarrer qu'en Dieu. L'encre, il connaît l'écriture. Hein. Faut pas l'oublier, c'est un croyant. Et l'espérance, c'est l'encre. Alors, on s'accroche à Dieu, mais on s'arrête, on se repose en lui. Les buts finis, le dégoût des intérêts bornés, la douleur de cette vie, le chagrin et les soucis de ce banc de sable qu'est la vie temporelle, les regrets, les peines, la compassion, tout cela, on le sent s'évanouir dans cet éther en un passé tel un songe. En cette région de l'esprit s'épanchent les flots de l'oubli où l'âme psyché s'abreuve et où elle plonge toute douleur et tout souci, où elle se défait de son être éphémère, où se dissipe toute rudesse et toute obscurité, où son essence autre, temporelle, se perd en une apparence qu'elle ne redoute plus, dont elle ne dépend plus. Toutes les formes terrestres n'y font plus qu'encadrer la forme lumineuse de la réconciliation, du recueillement et de l'amour, et de tout ce qui est, tempo- grandeur de la religion, sur la plus haute cime d'une montagne, loin de toute vue terrestre déterminée, nous regardons dans le ciel bleu et embrassons d'un coup d'œil, dans le calme et le lointain, les bornes des paysages et du monde. De même, l'homme, en la religion, libéré de la dure réalité, la contemple d'un œil spirituel. Remarquez cette analogie hein, qui prend. C'est une métaphore, mais c'est très beau. Et dans un paysage, on regarde la cime. Quand vous regardez de loin l'Himalaya, tous les paysages terminent. Il y a quelque chose qui dépasse. Et bien, c'est ça la religion, dans la vision de Hegel. De même, l'homme, en la religion, libéré de la dure réalité, contemple d'un œil spirituel, seulement comme une apparence qui s'écoule, apparence qui, dans cette pure région, ne reflète que dans le rayonnement de l'apaisement et de l'amour, ces nuances, ces différences, ces lumières adoucies dans l'éternel repos. Dans cette contemplation et ce sentiment, l'homme ne s'inquiète pas de lui-même, de son intérêt, de sa vanité, de l'orgueil de sa science, de son état, mais de son contenu propre, de sa seule fin absolue, qui est de manifester la gloire de Dieu et de révéler sa magnificence. Voilà tout le sens de l'homme. Révéler la gloire de Dieu, manifester sa magnificence dans cette contemplation. Cette image de l'absolu dans le recueillement religieux n'est point un idéal, un au-delà. Elle peut offrir plus ou moins de vivacité, de certitude, de jouissance actuelle, ou même être une chose désirée, espérée, être placée dans un au-delà. Néanmoins, elle n'est jamais posée isolément. Elle rayonne dans l'obscurité du présent temporel, comme la substance concrète actuellement active. La foi reconnaît l'essence divine comme la vérité de ce qui existe, comme la substance des existences présentes par accident. Et ce contenu du recueillement et ce qui donne la félicité dans le monde présent, qui agit dans la vie de l'individu, qui dirige sa conduite, la foi. C'est intéressant de voir que la foi apparaît là. C'est là, d'une manière générale, l'intuition, le sentiment, la conscience, qu'on lui donne le nom qu'on voudra, de la religion. Donc peu importe le nom qu'on lui donne, c'est l'intuition de la religion, c'est le sentiment de la religion, c'est la conscience de la religion, c'est la contemplation, c'est la foi. Tout ça, c'est la même chose. La représentation de ce que la religion est pour les hommes, ces leçons donc sur la philosophie de la religion ont pour but d'en chercher et d'en connaître la nature. J'ai voulu faire de cette connaissance l'objet de mes leçons parce que je pense que ce ne fut en aucun temps aussi important, aussi nécessaire. Aujourd'hui, l'intérêt direct et l'importance de la philosophie de la religion consiste en ceci, qu'il faut traiter de nouveau sérieusement cette science. Car le précepte que nous ne pouvons rien savoir de Dieu, que nous ne pouvons le connaître, pensée doit s'attendre à ce qu'on n'y prête aucune attention, à ce qu'on considère cette idée comme une erreur depuis longtemps réfutée et dont on ne doit plus du tout se préoccuper. Voyez, qu'est-ce que dirait Hegel après les formes d'athéisme, d'idéologie athée? On voit très bien là, le défenseur. Il voulait être pasteur, Hegel, il ne faut pas l'oublier. Donc il y avait chez lui une ardeur très profonde au point de vue de la foi. Et ce qu'il ne peut pas supporter, c'est qu'on dise c'est inutile de penser à Dieu puisqu'on ne peut pas le connaître. C'est ça. Et il veut donner, au contraire, une réponse à ça. Une réponse à cet agnosticisme qui tranquillise les gens. Oh Dieu, on ne peut pas le connaître, donc vivons. C'est comme si Dieu n'existait pas, vous voyez. On passe de l'agnosticisme à l'indifférence. Alors ça, c'est insupportable. Et au fond, toute cette philosophie de la religion qu'il donne, c'est pour montrer que c'est faux. Que c'est ça qui donne le sens à toute notre vie. Que c'est ça qui nous permet de dépasser toutes les douleurs, toutes les souffrances, d'avoir quelque chose qui nous permet d'avoir un axe dans notre vie. Plus est développée la connaissance des choses finies, l'extension des sciences étant devenue presque illimitée, et tous les domaines du savoir s'étant étendus immensément, et plus s'est rétréci le cercle de la science divine. Comme c'est vrai. Combien d'intelligences aujourd'hui sont mobilisées pour le progrès de la science? Combien d'intelligences sont mobilisées pour la recherche de la science divine? Je me souviens de cette parole, tout à fait le sens de cela, d'un professeur de médecine à Paris, qui est un excellent biologiste de tous les problèmes actuels, qui était le grand ami de Paul VI. Il était invité au concile. Il était le seul savant au concile. C'est lui-même qui m'a rapporté ça. Il s'est trouvé devant le très révérendissime père Arrupe, père général de la Compagnie de Jésus, espagnol, un très grand bonhomme. Il était au Japon, il l'a connu, il ne faut pas l'oublier, il a connu Hiroshima, en étant suffisamment loin pour vivre encore. Mais il était au Japon à ce moment-là. Alors, il s'est présenté comme celui qui avait fondé l'Institut de la vie, comme professeur à Paris, et comme à la fois médecin et scientifique. Et Arrupe a répondu, vous savez combien la compagnie a toujours eu un sens extrêmement grand de ce que t'es la science. Il y a toujours eu des chercheurs dans la compagnie. Alors il a répondu, révérendissime père, il y a assez de savants dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il manque de vrais philosophes, de vrais théologiens et des saints? Alors Arrupe dit, ah, vous croyez? On voit très bien ce laïc qui sait. C'est vrai, il y a assez de chercheurs dans le monde. Qu'il y ait des chercheurs entre dans la compagnie, qui entre chez les Dominicains, qui entre à Saint-Jean, très bien, merveilleux. On les reçoit porte ouverte. Ils sont là pour montrer comment la science devrait conduire vers Dieu et ne pas être un idole qui arrête. Vous voyez, alors, c'est beau de sentir la sensibilité d'un Hegel par rapport à cela, parce que ça vous signerait ça. Et c'est dit avec toute la force qu'il a dans son intelligence. Il fut un temps où toute science était une science de Dieu. Mais notre époque se distingue en ce qu'elle connaît toute chose et chaque chose et une infinie quantité d'objets. Il fut un temps où l'on s'intéressait à connaître Dieu, à en approfondir la nature, où l'on en avait le désir, où l'esprit n'avait de repos et n'en trouvait que dans cette étude. Il se sentait malheureux s'il ne pouvait apaiser ce besoin, considérant comme inférieur tout intérêt que pouvait avoir sa connaissance. Les luttes spirituelles que la connaissance de Dieu fait naître en nous étaient les plus hautes que connaissait l'esprit et qu'il éprouvait en lui. Notre temps a écarté ce besoin et la peine qu'il provoque. Nous en sommes venus à bout. Ce que Tacite affirme des anciens germains, qu'ils furent securi adversus Deus. Securi adversus Deus. Nous le sommes, à notre tour, devenus à l'égard du connaître, securi adversus Deum. Donc, on est en sécurité contre Dieu, indépendamment de Dieu. Ce n'est plus un chagrin pour notre époque de n'avoir nulle connaissance de Dieu. Au contraire, cela passe pour la vue la plus élevée que cette connaissance ne soit pas même possible. Ce que la religion chrétienne, comme toutes les religions, déclare être le commandement le plus sublime, comme le commandement absolu, vous devez reconnaître Dieu. Cela passe maintenant pour une sottise. Le Christ dit : soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Or, cette exigence sublime est pour la sagesse de notre temps un son creux. Elle a fait de Dieu un fantôme infini qui est loin de notre conscience, de même de notre science humaine, une ombre vaine des fantômes de la finité, des imaginations phénoménales. Comment pourrions-nous encore respecter ce commandement, lui donner un sens ? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, puisque nous ne savons rien de lui, ni de sa perfection. Comment se peut-il être un commandement pour nous, dont le savoir et la volonté sont si bornés, ne se rapportant absolument qu'aux phénomènes, et pour lesquels la vérité doit demeurer un au-delà, et Dieu est la vérité. Et nous devons aller plus loin et poser la question : qu'est-ce qui vaudrait la peine d'être compris si Dieu est incompréhensible ? D'après son contenu, il faut considérer cette position comme le dernier degré de l'abaissement de l'homme. Heidegger dit quelque chose d'analogue : l'homme est descendu si bas qui touche le fond. Or, quand on descend et qu'on touche le fond, il y a une espérance de revenir à la surface. Le coup de pied qu'on donne, vous savez bien, pour revenir à la surface. Mais là, tous les deux voient ça. Et je crois que nous voyons. Et qu'on est d'accord. que ça. C'est intéressant de voir, voyez, ces visions communes de gens qui viennent d'univers tout à fait différents. Et de voir qu'ils constatent que l'intelligence humaine est mobilisée pour la logique, pour la science, pour la critique. Mais la logique, la science, la critique ne nous disent rien de notre Père et de la perfection de notre Père. Alors on devient des orphelins volontaires. Et on devient des errants volontaires. On accepte ça. Parce que tout le monde fait ça. Vous voyez, on descend le fleuve. Toutefois, elle lui inspire d'autant plus d'orgueil qu'il sent qu'il s'est démontré à lui-même que cet abaissement est ce qu'il y a de plus élevé et sa véritable destination. Et seul ce côté formel que l'homme, par la connaissance, parvient à ce résultat, que sa connaissance saisit tout le reste, à la réserve du vrai, et ce qui offre encore quelque intérêt. Nous reviendrons là-dessus. Je déclare que cette position et ce résultat sont diamétralement opposés à toute la nature de la religion chrétienne. D'après elle, nous devons connaître Dieu, sa nature et son essence, et considérer cette connaissance comme ce qu'il y a de plus sublime, et qu'on y arrive par la foi, l'autorité, la révélation, ou comme on le nomme, par la raison. Cette différence ici importe peu, car cette connaissance-là en a fini avec le contenu que donne la révélation divine de la nature, comme avec le rationnel. Ici, cependant, c'est dans l'intérêt de la rationalité que nous avons à considérer avec sa sagesse ce point de vue. Cependant, nous avons à y revenir et à l'étudier de façon plus précise et à le traiter plus en détail. Ce qu'il suffise pour l'instant de l'avoir signalé et d'avoir expliqué que le but de ces leçons consiste plutôt à faire le contraire de ce qui lui semble plus sublime, à savoir reconnaître Dieu. Et c'est là, à notre époque, l'intérêt le plus prochain de la science de la religion qui nous est proposé. Alors évidemment, là, vous voyez la faille de Hegel. Connaître Dieu, on ne le connaît pas de la même façon par la foi et par la philosophie. C'est le même Dieu, c'est la même réalité, mais c'est deux voies différentes. Tandis que Hegel essaie d'unifier ces deux voies, et il prétend les unifier, et il est sûr de les unifier. Vous voyez, alors là, on voit l'erreur de Luther. Puisque pour Luther, les conséquences du péché originel font que l'intelligence, la raison, est complètement déchue par les conséquences du péché originel. Alors que l'Église catholique a toujours maintenu que l'intelligence humaine, malgré les conséquences du péché originel, était intacte dans sa capacité, dans sa nature. Que les conséquences du péché originel se portaient à l'égard de notre paresse, ce que vous n'avez pas parce que vous êtes ici, à l'égard de notre paresse, qu'à cause de notre paresse, notre intelligence et notre raison se développaient moins. Et que très souvent, on est essoufflé avant de monter jusqu'en haut de l'Himalaya, avant d'arriver à la métaphysique. Ce que nous essaierons de faire, c'est une expédition que nous faisons ensemble. Bon, on va faire cette expédition pour lutter contre notre paresse. L'homme est fait pour la science. L'homme est fait pour les mathématiques. L'homme est fait pour la technique. Il est fait pour dominer le monde. Mais l'homme n'est plus fait pour regarder Dieu. Et, au point de vue de la vision de l'homme, c'est intéressant ce que Hegel nous dit. Parce que là, on est parfaitement d'accord avec lui. Alors, la différence, c'est le moyen. Et il faudrait bien préciser cette différence. Parce que nous sommes d'accord que l'intelligence doit être au service de la foi. Que l'intelligence se supprime par la foi. Mais que l'intelligence permet à la foi d'aller jusqu'au bout de son mystère propre. Et donc de nous donner cette aspiration profonde à contempler Dieu. Je vous lis cet autre passage aussi. La fin de la philosophie de la religion. Je ne vais pas tout lire parce que ça nous prendrait trop de temps, mais c'est quand même intéressant pour nous. La religion constitue notre objet, et elle a comme contenu cet unique Dieu. Elle est la conscience du rapport à Dieu, et son objet est l'objet absolument inconditionné, se suffisant à lui-même, existant pour lui-même, le commencement et la fin dernière absolue en et pour soi. Or, ce contenu absolu, nous l'avons déjà remarqué, forme aussi l'objet de la philosophie de la religion. En considérant comme nécessaire de le traiter philosophiquement, il faut remarquer qu'on le traite ainsi pour la première fois. Il est vrai que notre étude a, d'une manière générale, le même but que jadis la science métaphysique qu'on appelait Theologia Naturalis. C'est intéressant de voir que Hegel fait lui-même le parallélisme. La théologie naturelle. Donc vous voyez, faire de la théologie naturelle, c'est répondre à l'aspiration de Hegel. Alors que hélas, aujourd'hui, des quantités considérées comme périmées. À Fribourg, où j'ai enseigné la théologie naturelle, on a dit très bien, tant que le père Philippe est là, mais après lui c'est fini. Et c'est fini maintenant, plus personne ne l'enseigne. En France, où enseigne-t-on la théologie naturelle? Une des dernières fois, j'ai vu le Saint-Père, il m'a dit, « Père Philippe, la vraie métaphysique, où l'enseigne-t-on ?» C'est la grande angoisse du pape. Où l'enseigne-t-on? Et alors, on peut envoyer une carte au Saint-Père. Ici, on enseigne la vraie métaphysique. Session sur la vraie métaphysique qui nous donne l'intelligence de la religion. Vous voyez comme Hegel là nous oblige d'être intelligents. Nous oblige d'aller jusqu'au bout. Et ça vous empêche de dire oh, ça s'est passé, mais non, il y a des sessions hegeliennes à Senlis chez les pères jésuites. C'est bien évident. Et à la place de prendre l'inspiration de Hegel, on prend sa méthode. Nous faisons l'inverse. Nous prenons son inspiration en disant c'est intéressant cette inspiration. Parce que c'est un grand bonhomme. C'est un génie qu'on reconnaît aujourd'hui tout le monde. On ne reconnaît pas comme génial saint Thomas, mais Hegel, oui. C'est ça qu'on doit essayer de découvrir. Je continue. Or, ce conte, donc, il est vrai que notre étude a, d'une manière générale, le même but, la même orientation, si vous voulez, pas la même méthode, le même but que jadis, il le sait, il a été complètement déçu de ses études. Hegel. Il a été, pour avoir des études de métaphysique qu'on appelait théologia naturalis. On y comprenait tout ce que la simple raison pouvait savoir de Dieu. La simple raison distinguée d'une religion positive révélée, d'une religion qu'on connaît par ailleurs que par la raison. Toutefois, cette théologie naturelle, par exemple, la métaphysique de Wolf, faisait de Dieu son objet, le point de vue de cette science montre tout de suite clairement qu'elle doit différer essentiellement notre étude. Et nous aussi, on n'est pas du tout dans la perspective de Wolf. Là-dessus, je suis d'accord avec Hegel. Wolf, c'est le dernier scolastique. Et c'est la scolastique décadente, très décadente. Alors on comprend que si on n'a que Wolf devant soi, on fasse autre chose. Toutefois, si cette théologie naturelle, par exemple la métaphysique de Wolf, faisait de Dieu son objet, le point de vue de cette science montre tout de suite clairement qu'elle doit différer essentiellement de notre étude. Elle se limite à la métaphysique rationnelle de cette époque et doit être considérée plutôt comme science de l'entendement et non comme science de la pensée rationnelle. L'entendement, c'est Descartes. Donc on considère Wolf comme descendant disciple de Descartes et non pas de la raison à la manière de Hegel. Non, c'est ça, c'est très intéressant de bien parce qu'il se situe là. Hein. Elle ne considère que Dieu d'une façon abstraite et selon l'entendement. Dieu comme essence. Sa notion de Dieu s'est bornée au résultat d'une essence de l'entendement. Or, nous considérons Dieu en tant qu'esprit. Et si l'on comprend Dieu comme esprit, cette notion renferme en soi le côté subjectif qui s'ajoute à ce contenu dans la définition de la religion. Très important, ça. Vous voyez, de voir l'irritation de Hegel en face de Wolf. C'est-à-dire une métaphysique abstraite. C'est l'idée de Dieu. L'essence de Dieu. Vous savez bien ce qu'a dit Pascal. Il est bon de le rappeler ici. Le Dieu des philosophes n'est pas le Dieu des chrétiens. Hegel veut que le Dieu du philosophe Hegel soit le Dieu des chrétiens. Donc il répond à cette dichotomie, à sa manière. Il le fait avec toute son énergie, toute sa raison. Le Dieu des philosophes, pour Hegel, je veux dire pour le Dieu des philosophes, pour quand Pascal en parle, c'est le Dieu de Descartes. C'est-à-dire, c'est l'idée. L'idée d'infini. C'est l'idée de la liberté. C'est l'idée de la perfection. Dieu est considéré comme celui comprend Dieu comme esprit, cette notion renferme en soi le côté subjectif qui s'ajoute à ce contenu dans la définition de la religion. Nous n'avons pas seulement ici affaire à Dieu comme tel, comme objet, mais aussi comme il est dans sa communauté. Car en tant qu'esprit, ce n'est pas seulement un être abstrait se rapportant à lui-même, mais il se trouve destiné à s'opposer comme sa propre image en communauté consciente en qui il pourra vivre comme esprit. On a dit que le monde, l'univers sensible, devait avoir des spectateurs, exister pour l'esprit. Aussi Dieu doit être encore plus pour l'esprit. On verra qu'il ne peut véritablement être compris que comme esprit. Et il se fait lui-même l'activité de la communauté par rapport à lui. Que la théorie de Dieu ne peut être saisie et exposée que comme la théorie de la religion. C'est pourquoi notre sujet ici est la religion. Si l'ancienne métaphysique, donc celle de Wolff, qui n'est pas du tout l'ancienne, qui est la métaphysique du XVIIe siècle, tout simplement, la métaphysique de Descartes, c'est pas du tout la métaphysique de saint Thomas, vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est le même mot. Alors on dit Hegel est contre la métaphysique de saint Thomas, mais non, il la connaît pas, c'est tout. Parce qu'à son époque, on ne connaissait pas saint Thomas, c'était le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, c'était les ténèbres. Et le Moyen-Âge, c'était l'obscurité. On regardait les cathédrales, on ne savait pas comment ça allait pousser. Ça allait pousser dans l'ombre, dans les nuages. Elles étaient quand même là. Mais vous les comprenez pas toujours très bien. Parce que comparativement à leur rococo, évidemment, les cathédrales et la romance, on détruisait les églises romanes pour mettre du rococo. C'est un siècle barbare qui fait ça. C'est curieux, c'est très très curieux. Vous savez, l'histoire de l'art est très intéressante parce que ça manifeste en grandes lettres ce que les gens pensent. Toujours. Alors je continue. Si l'ancienne métaphysique ne considérait Dieu qu'abstraitement, nous devons nous considérer la science de Dieu, l'esprit divin absolu qui se connaît lui-même. La religion. Mais l'homme et la religion et s'identifie avec Dieu. C'est ça qui est extraordinaire, c'est par le biais de la religion. C'est pour ça que c'est si important, cette métaxu. D'abord, au sujet de notre but, il faut avoir nettement conscience que la religion, en tout ce qui présupposé et existant, est la matière. Stoff. Que nous désirons seulement appréhender. Il ne s'agit pas de produire ce fondement, mais c'est la chose qui doit en chacun exister pour soi. Il ne s'agit pas d'introduire dans l'homme une substance neuve, étrangère. Ce serait comme si l'on voulait, dans un chien, introduire de l'esprit en lui montrant des productions de l'esprit. Elle m'a dit à Médor, regarde cette cathédrale, Médor. Et puis alors tu deviendras intelligent. Oui, c'est très très joli comme manière. Oui. Comme si l'on voulait dans un chien introduire de l'esprit en lui montrant des productions de l'esprit, en lui faisant dévorer des choses ingénieuses ou mâcher des livres imprimés. Ou comme si l'on voulait. Mais manger le petit livre, manger le petit livre, comme il est dit dans l'Apocalypse. Alors on est des petits chiens du Seigneur, on mange le petit livre. Tu vois, les dominicains sont des chiens du Seigneur, à manger le petit livre. Des productions d'esprit en lui faisant dévorer des choses ingénieuses, ou mâcher des livres imprimés, ou comme si l'on voulait rendre la vue à un malade. En lui parlant de couleurs. Celui qui n'a pas élargi sa poitrine en la dégageant du fini et n'a pas contemplé la calme région éthérée de l'âme et qui n'en a pas joui, celui qui n'a pas su le sentiment joyeux et tranquille de l'éternel, même sous la forme trouble de l'aspiration, celui-là ne saurait détenir ce dont il est ici question. Il peut peut-être en avoir quelque idée, mais le contenu n'en est pas son affaire propre. Il s'applique à quelque chose d'étranger. Mais c'est vraiment le métaxu à la religion. C'est par là que le philosophe entre dans le mystère de Dieu. Ça, c'est la position hegelienne, hein. C'est pas la nôtre tout à fait, hein. Mais c'est intéressant puisque c'est très proche. Et comme c'est celle qui est admise de tout le monde, c'est intéressant de le côtoyer. Côtoyer cette pensée philosophique. Il peut arriver que la connaissance philosophique de la religion fasse naître la religion dans l'âme et que le sentiment religieux s'y produise. Toutefois, ce n'est point une nécessité. Et ce n'est même pas ce que veut la philosophie. Sans doute, elle doit bien développer et représenter la nécessité de la religion en et pour soi. Elle doit comprendre que l'esprit doit passer par d'autres genres de son vouloir, de sa représentation, de son sentir, à ce genre absolu qui est le sien et qui doit y arriver. Que c'est là le destin, la nécessité, la vérité de l'esprit. Mais c'est autre chose d'élever à cette hauteur le sujet individuel. La philosophie ne veut pas, suivant l'expression, édifier. C'est là le but de la prédication qui vise le cœur, l'individualité des sujets comme tels. Le caprice, la sottise, la mollesse des individus peuvent empiéter sur la nécessité de la nature générale de l'esprit. S'en écarter, essayer de se donner une position particulière et de s'y maintenir. Le sujet peut d'une manière générale être méchant. La liberté peut cette possibilité. Il peut céder à l'opinion, à l'erreur, à la paresse, ou sciemment se maintenir dans cet état et y demeurer, et ainsi de suite. Donc on voit bien ce qu'il veut dire. C'est que la philosophie, elle, est une conduite rationnelle. Elle n'édifie pas. La prédication édifie. Et on se conduit à la religion en soi, dans ce qu'elle a de plus. Et la subjectivité est intégrée à ce moment-là dans l'objectivité. Et on aboutit à Dieu. Parallèlement, d'une façon toute différente, poétique, Heidegger. Donc là encore, quelque chose de tout à fait propre. Alors, pour Heidegger, c'est très différent, puisque pour lui, nous l'avons dit, c'est penser l'être. Et le philosophe ne peut pas aboutir à affirmer Dieu. Tout l'effort du philosophe, penser l'être, c'est d'être dans l'attitude de celui qui attend que Dieu se révèle. Voyez, Heidegger est d'origine, de formation catholique. À la différence de Hegel, qui est luthérien. Heidegger, je dis, connaît beaucoup mieux la différence entre la philosophie et la foi. Il respecte cette distinction en bon catholique. Il a été très séduit par Luther. C'est le virage qu'a pris Heidegger, très séduit par Luther. Et c'est difficile de comprendre Heidegger si on ne voit pas un peu cette influence sous-jacente de Luther. Heidegger est convaincu que la faille terrible de notre monde d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus cette pensée. pensée de l'être, que la métaphysique est terminée, l'ancienne métaphysique de Wolf, de Suarez, elle est terminée. Il faut redécouvrir une nouvelle philosophie qu'il appelle l'ontologie fondamentale, c'est penser l'être. Alors, on a dit de Heidegger qu'il était athée. Heidegger a répondu, on n'a rien compris à ma philosophie si on dit que je suis athée. Toute ma philosophie aboutit à l'attente de la révélation de Dieu. Attendre que Dieu se révèle lui-même. Ça, c'est dans la logique même de toute la philosophie heideggerienne. Sartre a dit qu'il s'inspirait de Heidegger en mettant le prima du néant. Heidegger a répondu, Sartre n'a rien compris à ma philosophie. Ce qui est vrai. Il ne faut pas dire que Sartre c'est l'heideggerien français. Tout à fait autre chose. Qu'il ait subi une influence de Heidegger, c'est sûr. Tourner autour de Heidegger, c'est sûr, mais c'est tout à fait différent. C'est très vrai que la négation, le néant, joue dans la philosophie heideggerienne une place très grande, mais en vue de découvrir l'être. La négation de tous les étangs, de tout ce que nous expérimentons immédiatement, doit permettre à l'esprit découvrir l'être. Et pour lui, penser l'être, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et c'est pour ça que pour lui, penser l'être, ce n'est pas penser Dieu. Dieu, ce n'est pas l'être. C'est la source de l'être. C'est le Créateur. Et c'est pour ça que je ne peux atteindre Dieu que si Dieu lui-même se révèle, en raison de sa transcendance, je ne peux pas saisir ce qu'est Dieu. Et ceci, ça se comprend très bien avec sa philosophie. Parce qu'au fond, il reste un poète, un grand poète de l'être. C'est vrai, un grand poète de l'être. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme le Platon de notre temps. Il nous réveille tout le temps. Et comme il reste au niveau de la qualité de l'homme, le Dasein, la qualité de l'homme, comparativement à Dieu, il y a un abîme. Dieu est le tout autre. Puisque la manière d'exister de Dieu n'est pas notre manière d'exister. Nous, nous existons dans la complexité. Dieu existe dans la simplicité absolue. De sorte qu'entre nous et Dieu, il n'y a pas de métaxu, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de point et rien. Vous voyez, c'est une position diamétralement opposée à Hegel. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je vous prends ces deux positions, pour voir que notre position est intermédiaire des deux. Nous tenons la main des deux, mais nous les dépassons. Vous voyez, si vous essayez de poser, c'est assez facile à comprendre. En gros, hein, en gros, je mets Hegel. Grâce à la foi, l'intelligence humaine est ressuscitée. La raison, disons la raison, parce que pour lui c'est la raison. La foi ressuscite la raison et montre que la raison n'a pas d'autre finalité que d'atteindre par la religion, d'atteindre Dieu en lui-même. Vous voyez, la foi réveille, ressuscite la raison, qui est faite pour découvrir Dieu. Et par la religion, subjectivement, on devient Dieu. Heidegger, lui, montre que les étangs, tous les étangs, vous les niez, la négation, le non-être, demande d'être dépassé pour penser l'être. Penser l'être, je crois qu'on peut mettre un majuscule. Penser l'être. Voilà le philosophe. Penser l'être. Voilà ce qu'il appelle l'ontologie fondamentale. Mais penser l'être, je pense l'être. L'être est dans ma pensée. L'être, penser l'être, c'est dans ma pensée que l'être est. De sorte que jamais je ne peux découvrir Dieu. Il faut que Dieu vienne vers l'homme, donc se révèle, pour que l'homme puisse, découvrir Dieu. Dieu est un Dieu caché, complètement caché. Donc voyez, l'immanence de la religion, la subjectivité de la religion, permet aux philosophes, aux vrais philosophes, de découvrir Dieu, de contempler Dieu, d'être en Dieu et Dieu en lui. Tandis que Heidegger, penser l'être, c'est comprendre l'infini de Dieu qui me transcende complètement. C'est grâce à penser l'être que je peux découvrir la transcendance absolue de Dieu. Et donc l'être n'est pas métaxu, intermédiaire pour découvrir Dieu. La position que nous prenons en face de ces deux, tous les deux sont grands à leur taille, l'un poète, l'autre rationnel au possible. Je ne sais pas dans le ciel comment ils se rencontrent. Ça va être assez amusant. Le dialogue Heidegger, Hegel. Heureusement que Thomas d'Aquin est là pour les réconcilier. Non, mes chers petits enfants, hein, chers petits enfants, l'un et l'autre, vous avez fait des efforts extraordinaires. C'est très beau ce que vous avez fait. Mais voyez, il y a une petite barrière, il y a une chose là où vous avez confondu quelque chose. Hein, pas vu tout à fait exactement. Et c'est pour ça que vous êtes en opposition. C'est vrai, Heidegger n'est pas du tout hegelien. Il va contre. Et les heideggeriens ne sont pas hegeliens. Et les hegeliens ne sont pas heideggeriens. Il y a une opposition entre les deux, farouche. C'est ça qui est très intéressant à voir. Et alors, au-dessus, Thomas d'Aquin. Et au-dessus, il était avant. Donc il ne s'agit pas de nier les états. façon d'être, comment traduire ça? C'est-à-dire ce qu'il y a de fondamental et de premier dans une réalité corruptible, moi-même, de dégager l'intelligence est capable, à l'intérieur de la réalité, de dire ceci est jugement d'existence, ceci est. On reviendra là-dessus, parce que tout est là. Quand je dis ceci est, je peux mettre l'accent sur est, ou l'accent sur ceci. Heidegger ne voit que ceci, c'est l'étant. Et l'être est perdu dans le ceci, et n'existe plus pour Heidegger. Il n'y a que ceci. Le petit chat, le petit Minet, il n'y a que ça. Ou l'homme, concret, je suis un ceci. J'existe. Mais j'existe. Donc, il y a l'être en moi. Heidegger ne dégage pas l'être du ceci. Et identifie l'être au ceci. Tandis que je suis capable, dans mon intelligence, de séparer, de distinguer l'être de sa manière particulière d'exister. L'être dans le ceci, dans l'homme, il est toujours être, mais à la manière de l'homme. Ce que Aristote avait très bien saisi dans une formule très très jolie. En grec, ça se dit très bien. Et en français aussi, du reste, l'être à l'homme, le to einai anthropo, l'être à l'homme. Oui, j'existe. Eh oui, j'existe. Et mon existence n'est pas celle de mon voisin, même si je l'aime beaucoup. Mon voisin, il existe à sa façon, et moi j'existe à la mienne. Après tout, laquelle est meilleure, ça dépend. Pour certains, je suis plus aimable. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Mais j'existe. Donc je peux essayer de comprendre mon existence. Donc voilà ce que Thomas dit, un gars dit dans le ciel à Heidegger. Voilà ce qu'il lui dit. Tu as oublié que dans l'étang, cet étang existe. Il est. Ceci est. Pierre existe. Charles existe. Mais il est Charles. Et Charles, ce n'est pas l'être, c'est Charles. C'est cette manière particulière d'exister. Même si c'est le grand Charles, il n'est pas l'être. N'est-ce pas? Si. Il existe. Et quand il meurt, il meurt. Il y a des traces, mais c'est tout. Il ne meurt pas dans son être. Non. Mais il meurt dans sa manière d'exister. C'est sa manière d'exister qui meurt, puis reste dans une autre manière d'exister, qui est au-delà de ce que le philosophe peut dire. Vous voyez, si de fait je peux distinguer être du ceci, l'être va être la possibilité pour moi de comprendre qu'entre Dieu et moi, il y a un petit lien. Le geste de Michel-Ange, ça se touche. Je touche Dieu par mon être actuel. Il y a un contact, puisque j'existe et que Dieu existe. Donc, Dieu n'est pas celui qui est totalement inconnu. Il est celui qui est mon créateur. Moi et lui, il y a quelque chose de commun. Ce que Heidegger n'a pas vu du tout. Et là, alors il tombe sur les griefs de Hegel. C'est trop facile de dire que vous ignorez complètement Dieu. C'est trop facile. Et en disant ça, vous tuez vous-même. Et c'est vrai. Vous vous mettez orphelin. premier qui s'est révélé. Je sais pas s'il l'a oublié complètement, parce qu'il dit la foi, c'est possible. La foi demeure. À l'égard de Hegel, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça c'est intéressant. Alors, ce que Thomas d'Aquin veut dire à l'égard de Hegel, dans le ciel, on aimerait bien écouter. Téléphone rouge. Écoutez, qu'est-ce que Thomas d'Aquin dit à Hegel? Son inspiration, sa soif de connaître Dieu. Oh, très bien. Le jeune petit Thomas d'Aquin, tapé quand il avait 7 ans à la porte d'un monastère. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qui est Dieu? Et toute sa vie, ça a été de connaître Dieu. De chercher à connaître Dieu. Donc, là, il se retrouve avec la même inspiration, avec le même désir, connaître Dieu. Je suis fait pour connaître Dieu. Et c'est ça qui me donne toute ma vie. Et c'est ça qui me donne tout mon élan. Et je recommence tout le temps, connaître Dieu. Donc il se retrouve là-dessus. La même finalité, c'est beaucoup. Il y a un rapprochement plus grand. Thomas d'Aquin est plus proche de Hegel que de Heidegger. Point de vue de la finalité, il faut le reconnaître. Tous les deux reconnaissent que c'est ça la grande finalité de l'homme. Mais le moyen est fou. Pourquoi ? Thomas d'Aquin dit Hegel, ah, il fallait pas être luthérien. Il fallait pas être luthérien. Là, il y a quelque chose qui... Il y a un péché de jeunesse. Tu n'en peux rien, mais il y a un péché de jeunesse. Et c'est la position de Luther qui t'a mis dedans. Parce que l'intelligence humaine n'est pas corrompue par les conséquences du péché. Et donc, la foi ne remplace pas l'intelligence. La foi ne ressuscite pas l'intelligence, mais la foi est là pour permettre à l'intelligence d'être parfaitement elle-même, c'est-à-dire de comprendre à la fois sa finalité et ses limites, et de comprendre que la foi ne peut atteindre Dieu pleinement. Je veux dire, l'intelligence ne peut atteindre Dieu pleinement que par la foi. La foi me permet de recevoir Jésus, qui lui me révèle qui est le Père. Et en révélant qui est le Père, je comprends mieux que je dois respecter l'œuvre du Créateur. Et le Créateur a créé en moi l'intelligence. Thomas d'Aquin fait comprendre à Hegel que il s'est appuyé sur Luther, il ne valait pas. Et qu'en s'appuyant sur Luther de cette manière, pratiquement, il a retrouvé l'inspiration de Thomas d'Aquin sans avoir le moyen de l'atteindre. Alors, il a pris un moyen qui n'est pas tout à fait juste, la raison. Il est retrouvé dans une certaine univocité, la raison. Il aurait dû prendre l'intelligence. Il a retrouvé une certaine univocité parce que pour lui, la raison permet de rejoindre la philosophie de la religion. Comme si Dieu était immédiatement présent. Et c'est vrai que par l'amour, Dieu créateur est immédiatement présent, c'est sûr. Mais Dieu est immédiatement présent par l'amour. Mais je ne peux pas saisir directement ce qu'est Dieu. Il n'a pas distingué suffisamment la découverte de l'existence de Dieu. Distinct de ce qu'est Dieu. Alors nous allons nous essayer de voir comment nous pouvons découvrir l'existence de Dieu et que cette existence de Dieu que nous découvrons nous permet de vivre en homme religieux. Hegel, l'erreur de Heidegger. Mais on a envie de dire, pour un luthérien, il s'est quand même pas trop mal tiré. Parce qu'il redécouvre l'inspiration profonde de toute la grande tradition chrétienne. Mais dans les moyens, il s'est trompé. Tandis que Heidegger n'a pas redécouvert la grande inspiration chrétienne, sans doute à cause de son opposition vis-à-vis de Hegel. Parce que lui aussi a regardé Luther, mais il est resté à l'aspect de Luther négatif. L'intelligence humaine est incapable d'atteindre Dieu. Elle peut atteindre l'être, elle ne peut pas atteindre Dieu. Tandis que Hegel, tout en étant luthérien, tout en acceptant pleinement cette position de Luther, veut que la foi ressuscite la raison et lui donne toute sa force, tout son élan vers Dieu, non seulement le Dieu qui existe, non seulement le Créateur, mais l'unique Dieu qui est Père et qui nous a donné son Fils. Et donc c'est tout le mystère de la très sainte Trinité. Alors, l'erreur, c'est qu'il y a confusion entre la capacité de la raison et la raison.